Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Nous y voilà, le dernier sujet de la saison avant la pause estivale et le passage à la grille d'été sur Divergence FM. Le soleil et la chaleur sont déjà là et avec eux l'envie de s'évader et de fuir loin, très loin du béton. Chacun choisira sa destination, mer, montagne, rivière, camping ou hôtel, en France ou à l'étranger. Et puis il y a ceux pour qui été ne rime qu'avec musique, culture et festival. Entre amis ou en famille, les festivaliers sont devenus au fil des dernières décennies un public à part entière qui ne se satisfait plus d'un concert ou d'un spectacle, mais rêve d'une immersion complète d'une expérience quasi totale dans un univers sur mesure, le temps de 2, 3 ou 4 jours. Car un festival, ce n'est pas uniquement une expérience musicale, une expérience culturelle, c'est aussi un vivre ensemble, un engagement citoyen pour certains. Une petite république, dirait notre invité. Une petite république éphémère même, je me suis trompée. Pour mieux comprendre ce phénomène et en dresser un état des lieux avant Covid, le ministère de la Culture a lancé il y a 3 ans une grande étude menée par le département des études de la prospective des statistiques et de la documentation de ce même ministère, mais aussi l'agence culturelle Nouvelle-Aquitaine et le CEPEL, notre centre d'études politiques donc de l'université de Montpellier. Notre invité a bien sûr participer à cette étude. Il nous en parle aujourd'hui comme un petit avant-goût de vacances. Emmanuel Négrier, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Allume la science. Avec moi pour mener cette interview, comme chaque semaine, Aline Perriot.
Bonjour.
Bonjour Aline. En seconde partie d'émission, nous vous emmènerons au campus CNRS pour visiter le plateau expérimental du CEF, le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier. Et pour notre invitée des 3 dernières minutes, c'est Perrine Picard, stagiaire à la direction de la communication, qui passera sur le grill Tristan Rongère, étudiant en master management de la transition écologique et de l'économie circulaire, qui nous parlera de son projet Véloptimiste. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55.
Alors, quand on parle de festival, on a tout de suite les grands noms en tête. Vous devez les avoir aussi. Les Vieilles Charrues, les Eurockéennes, les Francopholies, Hellfest, qui s'est passé il y a peu de temps. Avignon et Aurillac pour le théâtre, Canet-Deauville pour le cinéma. Emmanuel Négrier, votre étude, elle souligne surtout la grande diversité qui se cache derrière ces têtes d'affiche. Donc, un festival, c'est quoi ?
Vous avez raison de parler de ces grandes têtes d'affiche. Alors, je note que vous considérez que c'est le début de l'été qui rime avec le début des festivals. Et en fait, ce n'est plus tout à fait vrai. C'est le résultat de notre étude, d'ailleurs. C'est qu'il y a beaucoup plus de festivals que simplement les festivals d'été. Et il y a beaucoup plus de festivals que les grands noms que vous venez de citer, avec sur 7300 festivals.
7300 festivals.
Voilà, les noms que vous avez cités sont donc les gros festivals qui ne représentent qu'en gros 5% du total. Donc la réalité festivalière, ce qu'on a appelé la festivalisation, c'est un phénomène qui va bien au-delà de ces grandes affiches et qui témoigne de la vitalité culturelle, artistique et territoriale en France autour des événements. Alors, ce qu'on caractérise comme un festival, j'ai envie de citer Richard Wagner tout de suite, qui disait « un festival, c'est une musique exceptionnelle pour un moment exceptionnel, dans un lieu exceptionnel. » Eh bien, c'est plus vrai du tout. C'est plus vrai du tout parce que l'exceptionnalité prend l'eau de toutes parts. Un moment exceptionnel, on voit que les festivals s'étendent tout au long de l'année. Une musique exceptionnelle, c'est plus du tout la musique seulement. La musique est majoritaire, mais elle ne résume plus du tout les disciplines qui sont convoquées pour faire festival. Et puis, un temps exceptionnel, le temps de l'été, qui était auparavant le temps festivalier, est maintenant complètement dépassé par une programmation des festivals très largement tout au long de l'année, avec un creux au cœur de l'hiver, par exemple, mais pas partout, notamment pas dans les métropoles. Et je dirais une force, une dynamique actuelle de création de festivals en dehors de l'été pour la plupart.
Alors on aura le temps justement de revenir tout au long de l'émission sur tout ça. Vous parlez du fait festivalier. Il y a peut-être qu'est-ce qui se cache derrière cette expression-là, un fait festivalier ?
Rien ne se cache. il se passe quelque chose dans le fait festivalier qui, a des propriétés qui sont un peu différentes de la pratique culturelle habituelle, et notamment par le fait que un fait festivalier se caractérise à la fois par un rapport à l'art, à la culture, mais aussi un rapport aux autres qui est d'une intensité tout à fait différente. Quand on interroge les festivaliers sur la différence qui existe dans leur propre pratique entre aller à un concert et aller à un festival, ils disent tout de suite que deux choses. La première, c'est que le rapport aux autres est constitutif du fait festivalier. Et deuxièmement, puisqu'ils sont dans un festival, eh bien, ils prennent plus de risques. Ça peut paraître curieux de parler de risque quand on parle de quelque chose qui fait plaisir intrinsèquement, mais ils prennent plus de risques au sens où ils sont plus ouverts à des découvertes, à des expérimentations. Donc il y a un rapport à la culture qui est d'une nature un peu différente par cette double caractéristique au moins.
Alors ces festivals, ils se développent au début des années 80 en France, et ils sont devenus en 40 ans, on l'a dit, un des piliers de la politique culturelle française. D'où ça vient au départ le festival? Comment il est né ce fait festivalier?
Alors, les festivals ont été créés à peu près partout en France, sans territoire distinctif, souvent en lien avec des personnes un peu charismatiques qui ont été à l'origine d'une aventure. Souvent, les festivals sont des paris. Alors, quelquefois, ils sont liés à des circonstances tout à fait particulières, mais presque juridiques ou réglementaires, comme par exemple les festivals qui ont lieu dans des villes d'eau, puisque, comme vous le savez, les villes d'eau ont droit d'organiser des jeux, d'avoir des casinos, à la condition qu'une partie significative de leurs bénéfices soit au profit de la culture et des arts. Et donc beaucoup de festivals ont été créés dans ces conditions. C'est une condition un peu particulière, mais par exemple, le Festival Lyric d'Aix-en-Provence, il est lié à ça. Donc des aventures personnelles qui prolongent une sorte d'entre-soi autour d'une discipline, autour d'un instrument, autour d'un lieu patrimonial, autour d'une ville d'eau, comme je viens de le dire. Et c'est à partir du moment où finalement se développent ces événements dans ces conditions tout à fait particulières qu'on voit se rencontrer d'une part ces aventures et ces territoires complètement différents avec un phénomène majeur, un double phénomène, la décentralisation d'une part, avec la prise de conscience par beaucoup d'élus locaux, départementaux et régionaux, que finalement la culture c'est un moyen de faire exister leur territoire, de développer à la fois un électorat et même des ressources économiques sur le territoire, en particulier dans les régions du Sud, et Montpellier est tout à fait un exemple éclatant de cette stratégie-là. Et puis, deuxièmement, la stratégie du ministère de la Culture et de Jack Lang en particulier, qui en 81 se dit « je vais susciter par mes finances démultipliées des projets d'équipement, mais avant qu'ils voient le jour, j'aurai pas beaucoup d'impact de ça, donc je vais doubler ma stratégie de développement d'institutions culturelles par une stratégie de la fête, fête de la musique, fête du patrimoine, les arts au soleil et soutien au festival. »
Alors c'est une politique qui va bien fonctionner, donc vous résumez un petit peu donc dans le début de l'étude toute cette évolution, une montée en puissance dans les années 90, un essoufflement dans les années 2000, une explosion en 2010, et cette explosion elle va conduire, donc avec le chiffre que vous avez cité, donc plus de 7000 festivals, elle va conduire le ministère de la Culture à lancer les états généraux des festivals il y a 3 ans, c'est bien ça ? Mmh. Et donc elle demande une meilleure observation de ce phénomène qui va donc vous conduire à cette étude, mais donc vous les avez recensés pour commencer ces festivals, vous les avez tous retenus ou alors vous en avez 7300, je crois que c'est 7300 le chiffre, c'est tous les festivals où il y avait des critères particuliers?
Alors ce sont tous les festivals qui correspondent à un certain nombre de critères exclusifs. Par exemple, pour ce qui est de la littérature, nous n'avons pas retenu les salons littéraires qui n'ont pas d'invitation, de programmation particulière, de conférences d'auteurs, par exemple, ou d'événements de ce type. Deuxièmement, nous n'avons pas retenu les festivals qui se créaient l'année même de l'étude, puisqu'un festival, sa caractéristique, c'est d'avoir lieu régulièrement. Donc il faut au moins qu'il ait eu lieu une fois pour qu'il puisse être considéré par nous comme un festival. Et puis, en fait, ensuite, en termes de programmation, nous avons retenu des événements qui sont au-delà d'une seule journée et qui programment au moins 6 représentations différentes.
Et alors, avec ces critères-là, est-ce que vous avez constaté qu'en France, il y avait plus ou moins de festivals que dans les autres pays européens ?
Alors, on n'a pas fait la même étude. Ça nous a pris beaucoup de temps. Hein, et c'est une affaire assez complexe de recenser l'ensemble des festivals. Pour vous donner une idée, en 2017, un inspecteur général des affaires culturelles avait essayé de recenser les festivals en France avec une méthode unique pour lui. Et il avait recensé 3200 festivals. Et puis après, il s'était promené en France pour voir par département, faire un peu des coups de sonde pour voir s'y retrouver ces festivals, et il en a trouvé le double. Donc on n'est pas très loin de notre propre comptage, mais ça prend beaucoup de temps, et pour l'instant, nous n'avons pas de collègues dans les autres pays qui aient mené de telles enquêtes. Donc je me réserverai sur la question de savoir s'il y a plus de festivals en France qu'en Allemagne ou qu'en Espagne. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec mes collègues internationaux, on a tous fait le même constat d'une très forte croissance du nombre de festivals de toute façon.
Alors, on parle beaucoup des festivals de musique, donc vous avez recensé les festivals par catégorie aussi. Est-ce que c'est la majorité, alors, les festivals de musique ?
Oui, alors sur ces 7300 festivals, les festivals de musique représentent 41% du total. Et on est à un petit quart de festivals en outre qui sont des festivals de spectacles vivants. Les autres disciplines sont un petit peu moins répandues. Les festivals de littérature d'abord, ensuite les festivals de cinéma et enfin les festivals d'art visuel. Alors ces trois dernières disciplines représentent en même temps la dynamique la plus forte d'augmentation du nombre de festivals.
Donc, art dans visuel, la dernière période, cinéma et littérature. Et littérature.
Et donc ce sont trois disciplines qui sont intéressantes parce que d'une part, alors pour des raisons très différentes, hein, mais d'une part, ce sont des festivals qui se déroulent moins l'été que dans le reste de l'année. Donc ça diversifie l'offre culturelle et on n'est pas là dans une logique où les festivals se marchent les uns sur les autres, comme dans certains domaines de la musique, par exemple, et l'été. Et puis on est dans des logiques de création de festivals qui sont assez différentes. Par exemple, pour ce qui est des festivals de littérature, on est beaucoup plus proche des lieux consacrés à la littérature et aux livres. Par exemple, les médiathèques jouent un rôle très important dans ce domaine. Et on est du coup plus dans des festivals de statut public ou très proche des collectivités territoriales. Et c'est intéressant de ce point de vue-là parce que ça donne par le festival à la pratique de la lecture et à la pratique de la littérature une dynamique plus importante. Et pour et alors la dernière chose que je ne peux pas ne pas vous dire à vous, c'est que ces nouveaux festivals, plus les festivals sont nouveaux, et dans ces domaines en particulier, plus leur direction est féminine, ce qui est quand même une bonne chose dans un monde culturel qui reste encore un peu machiste.
Alors, votre étude, c'est aussi une cartographie, on l'a dit, donc on va les situer géographiquement, ces festivals. Est-ce qu'il y a des régions en France qui en comptent significativement plus que d'autres ?
Il y en avait 4 qui en comptaient énormément plus que les autres. La Bretagne, l'Aquitaine, l'Occitanie, on dira aujourd'hui, c'est-à-dire le résultat de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, et la région Sud-PACA. Aujourd'hui, ces régions continuent de dominer. En nombre de festivals, on est à près de 4000 pour ces 4 régions, un petit peu moins de 4000. Mais ce qui est remarquable, c'est que dans la France entière, quand on regardait la carte des années 90, eh bien, il y a des régions, par exemple la région Lorraine, la région Franche-Comté, qui étaient des régions désertiques du point de vue de l'activité festivalière. La région Île-de-France était une région qui ne connaissait quasiment pas de festival. Et finalement, ce qu'on constate, c'est que le phénomène de festivalisation touche maintenant toutes ces régions. Alors, les régions du Sud continuent d'être des régions dominantes du point de vue de l'offre festivalière, parce que là aussi, se sont développées des logiques d'extension, à la fois territoriale et saisonnière, du fait festivalier. Et la grande dynamique dans le Sud, la grande dynamique de création de nouveaux festivals, elle donne la part belle aux métropoles.
Alors cette dynamique, c'est à la fois une bonne chose et à la fois elle pose des questions. On le voit à Montpellier où un festival en chasse un autre. Finalement, on perd le côté exceptionnel du festival. Vous citez également l'exemple de Sète où je pense qu'il y a une profusion à tel point qu'effectivement la saison en plus c'est allongée. Est-ce que de l'éphémère on n'est pas passé au permanent justement, comme vous le dites dans votre étude ?
Ben, j'ai commencé par citer Wagner, triple exception. Donc, effectivement, il s'agissait à l'époque de manifester cette exceptionnalité. Aujourd'hui, ce qui guette un festival, c'est sa banalisation. Au contraire, effectivement, le développement considérable du nombre de festivals pose à chacun d'entre eux la question de sa patte singulière, de son identité particulière. Et cette identité particulière, elle motive deux choses. La première, c'est tout un travail qui consiste à soigner une programmation, une ambiance, une logique culturelle et festive. Et la deuxième, c'est de coopérer entre festivals. Et c'est une manière, je dirais, de réguler les risques de concurrence qui sont avérés, qui sont bien réels. Je donne juste un exemple, d'ailleurs assez paradoxal. Qui est celui des déferlantes dans les Pyrénées-Orientales.
Qu'on vient de croiser voilà. Dans le hall du studio.
Bah, justement, c'est peut-être pour ça que j'y pense, mais effectivement, les déferlantes qui se situaient à Argelès, après un passage à Céret, toujours dans les Pyrénées-Orientales, vivaient la présence d'Electro Beach au Barcarès juste à côté, comme une concurrence potentiellement mortifère pour lui. Donc là, les déferlantes sont passées à Argelès. Je ne sais pas ce qu'il en est, à part Argelès, au Barcarès. Je ne sais pas ce qu'il en est de la coopération entre les deux. Peut-être est-elle organisée par la mairie du Barcarès elle-même. Mais en tout cas, il y a quand même toujours cette atmosphère et ce risque que les festivals, plutôt que de prospérer les uns avec les autres, se nuisent mutuellement. Parce qu'ils ont à peu près les mêmes audiences et que les uns vont plutôt choisir tel festival que tel autre.
Alors, cette étude, on l'a dit tout à l'heure, elle se base sur les chiffres de 2019. Et entre-temps, il y a eu le Covid. Et on vous avait interviewé dans l'UM à l'époque. La crainte, c'était de voir que certains de ces festivals pourraient faire faillite. Est-ce que c'est le cas, 3 ans plus tard ?
Alors, il y a un certain nombre de festivals qui ont subi la crise et qui ont du mal à se relever. Qui ont du mal à se relever parce que, par exemple, la crise a éloigné une partie des bénévoles du festival, et on pense en particulier à un certain nombre de festivals de musique classique qui ont beaucoup de mal à retrouver et leurs bénévoles et voire même leur public. Mais globalement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de demandes de soutien à la région, à l'État, aux collectivités territoriales autres pour créer un festival. Donc finalement, on est dans une situation à peu près identique à celle de postérieure à la crise des subprimes en 2008, où on se disait c'est la fin du festival, ça y est, c'est foutu. Et finalement, on s'est rendu compte, même à cette époque-là, qu'il y avait eu de plus en plus de nouveaux festivals qui se créaient, parce que la dynamique de création des festivals, c'est valable en 2008, c'est valable en 2023. Cette dynamique-là, elle est liée à autre chose qu'une espérance de bénéfices économiques. Ce sont des projets économiques, certes, mais ce sont des projets politiques, sociaux, culturels, aujourd'hui qui abordent des causes comme l'environnement, l'égalité de genre et toutes ces préoccupations qui sont au cœur même de nos démocraties occidentales.
Alors l'interview a filé à une vitesse incroyable, ça fait déjà 20 minutes Emmanuel.
C'est dingue.
On vous remercie beaucoup, si vous voulez des informations complémentaires, donc on met évidemment votre étude en ligne sur le site donc, de Divergence et sur le site de l'Université de Montpellier. Merci beaucoup, vous allez faire un festival cet été ?
Plein. Un seul ?
À très bientôt. Et on passe maintenant à notre séquence reportage, et c'est toi Aline qui nous emmène.
Oui, aujourd'hui, on suit Thierry Mathieu et François Vasseur qui nous proposent une visite guidée de la plateforme du terrain d'expérience située au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, le CEF. On a 5,5 hectares de terrain avec des serres, des volières, des ruchers, des tunnels horticoles, autant d'installations destinées à faire de l'écologie de l'évolution expérimentale.
Bonjour, je m'appelle François Vasseur, je suis chargé de recherche au CNRS, à l'unité CEF pour le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, donc qui est basé à Montpellier. Et je suis le responsable scientifique de la plateforme du terrain d'expérience qui est situé au CEF.
Bonjour, alors moi je suis Thierry Mathieu, je suis le responsable technique qui travaille en binôme avec François. Je suis ingénieur de recherche CNRS et donc je suis chargé en fait de faire vivre cette plateforme des terrains d'expérience du CEF. En tout, on a 5,5 hectares de terrain. On a des installations de serres pour pouvoir avoir des milieux contrôlés. Et puis, on a divers équipements. On a des volières, il y a un rucher qui est installé. On a des tunnels horticoles, enfin, divers équipements qui permettent en fait de contrôler plus ou moins l'environnement.
En termes de recherche, qu'est-ce qu'on fait ici plus précisément ?
Alors on va faire tout ce qui est de l'écologie expérimentale, de l'écologie et de l'évolution expérimentale. Donc c'est un peu la grande force de la plateforme, c'est de pouvoir associer des espaces extérieurs. On va pouvoir faire des suivis plus ou moins long terme sur des populations et sur différents types d'organismes, que ce soit des animaux ou des végétaux. Et donc typiquement, on va avoir des expérimentations dans des conditions, on va dire, écologiquement réalistes, hein, en extérieur, qui prennent en compte justement les complexités de ces milieux, pour faire des suivis de populations sur plusieurs années, notamment, par exemple, pour regarder les capacités d'adaptation des organismes à différentes contraintes environnementales. Et ceci va être associé avec des outils et des infrastructures de phénotypage en conditions contrôlées, donc typiquement des serres et notamment le nouveau plateau technique qui vient d'être inauguré, qui permettent justement d'aller plus finement explorer certaines questions en maîtrisant mieux les conditions environnementales, donc de pouvoir tester certaines hypothèses plus spécifiques.
Ce nouveau plateau technique, il a une surface globale de 900 mètres carrés environ. On va décrire simplement, il est divisé en trois parties. Il y a environ 300 mètres carrés de serre, elle-même divisée en deux types S1, S2. Donc les S2 sont des serres confinées. Ensuite, on a environ 300 mètres carrés de halles logistiques, d'espaces de travail pour pouvoir bosser à l'abri, au chaud, au sec, etc. Et enfin, une dernière zone qui est encore à aménager, où on installera des espaces d'expérimentation avec des conditions extrêmement contrôlées, dans des sortes de boîtes type frigo, où on chauffera, on refroidira, on humidifiera, etc. etc.
Donc là, les expérimentations qu'on a actuellement, c'est des expérimentations plutôt pilote, on va dire. Notamment en face de nous, on a une expérimentation de multiplication de graines. Là, c'est des plantes d'Arabidopsis thaliana, ce qu'on appelle l'arabette, qui est une espèce modèle en écologie végétale, enfin en biologie végétale de manière générale. Et donc là, on a plusieurs centaines de génotypes issus de collections qui viennent des quatre coins du monde et dont on multiplie aujourd'hui ici les graines pour avoir plus de matériel pour faire ensuite des expérimentations dans les années suivantes.
Ce qui fait la particularité de l'équipement ici, c'est qu'effectivement, on a cumulé un maximum d'éléments pour que les serres soient un minimum énergivore et qu'on ait un vrai contrôle sur la luminosité, etc. etc. Et donc, on a mis en place tout un tas de choses, c'est-à-dire une récupération des eaux de pluie, des panneaux solaires, des équipements très efficaces, du double vitrage faible émissivité pour faire des économies de chauffage. On a un chauffage au sol, ça c'est un peu moins courant. Et on a effectivement toute une batterie d'équipements dans les serres qui nous permettent de contrôler la lumière, faire des apports lumineux. Donc on a des spots là, LED. On a des rideaux dans tous les sens, à l'horizontale, à la verticale, courant sur la toiture. L'ensemble des serres est équipé pour pouvoir passer éventuellement en confinement dans l'intégralité. Alors qu'actuellement, il n'y a qu'une partie là, en S2. Les S1 peuvent très bien, avec quelques aménagements minimum, être transposé en S2. Voilà.
Et qu'est-ce que c'est une serre confinée ?
Alors une serre confinée, c'est une serre qui va permettre d'éviter, pour faire simple, de polluer l'extérieur avec ce qu'on fait dedans. Voilà. Donc en gros, c'est si on travaille avec des plantes qui peuvent potentiellement poser un problème pour l'environnement, eh bien, on va mettre tout en œuvre pour pouvoir conserver tous les vecteurs potentiels de problèmes, c'est-à-dire les graines, le pollen, la matière végétale. Et tout ça, en fait, est traité avant d'être évacué.
Oui, donc la plateforme du terrain d'expérience, elle est hébergée sur le CEF. On a la chance d'avoir la proximité de cet espace vraiment formidable. Mais elle est ouverte à plusieurs laboratoires montpelliérains. En fait, tous les laboratoires qui font partie du laboratoire d'excellence CEMEB ont accès à la plateforme et peuvent mener des expérimentations dans ces espaces.
Cette plateforme, en fait, elle s'inscrit dans un cadre plus large de coulées vertes qui arrivent donc de tout ce qui est Montmort, Zoo, Vallée du Lèze. Ça s'inscrit dans le cadre de la métropole. Et on veut en faire depuis toujours un spot de biodiversité en faisant des relevés botaniques et des relevés de présence animale. Et donc, on met tout en œuvre pour que cet espace soit préservé et puisse continuer à représenter un espace vert remarquable dans la commune de Montpellier.
Et on passe maintenant à notre invité des trois dernières minutes, ou plutôt, je passe la main à Perrine Picard, qui est stagiaire à la direction de la communication et qui va donc se charger de cette interview. Bonjour Perrine.
Bonjour.
Pas trop stressée?
Ça va pour le moment.
Alors, qui tu as choisi d'inviter?
Alors, j'ai invité Tristan Rongère. Donc, passionné de vélo et voulant agir pour le climat, Tristan, étudiant en Master 2 Management de la transition écologique et de l'économie circulaire, a eu l'idée de mettre en place un projet, un tour de l'Europe de 4 mois à vélo. 10 pays, 11 grandes villes, étapes, 6000 km de pédalage intense et 18000 mètres de dénivelé positif. C'est ce que nous propose Tristan Rongère avec sa fidèle compagne Colette, son vélo de compète. Il est avec nous en studio. Bonjour Tristan.
Bonjour à tous et bonjour, merci Tristan. Pour l'invitation.
En menant à bien ce projet, quel est votre objectif en fait?
Il y a plusieurs objectifs. Déjà c'était d'expérimenter le voyage en vélo sur le long terme pour voir... les bénéfices, que ce soit pour l'environnement ou pour aussi aller rencontrer des gens. Et puis après est venue l'idée d'aller rencontrer des acteurs de transition écologique pour essayer de sensibiliser au maximum sur ces enjeux et montrer qu'il est possible d'agir sur plein de thèmes différents et de trouver sa voie dans ces enjeux-là, quoi.
Ok, et comment les personnes qui vous suivent peuvent contribuer à votre projet et qu'est-ce qu'elles en tirent après?
Mais il y a plusieurs moyens de contribuer au projet. Déjà, il y a les partenaires qui m'ont permis, d'une part, de financer aussi ce projet, parce qu'il y a des postes de dépenses. Donc, je pense à l'Université de Montpellier, via la FSDE, qui a financé un peu le projet. Je pense à Montpellier Management aussi, qui fait partie de l'Université de Montpellier, qui a décidé de soutenir le projet. Et en contrepartie, voilà, je dois sensibiliser les étudiants sur ces enjeux-là, essayer de partager du contenu intéressant, des vidéos, des rencontres que je vais faire et tout pour parler, que ce soit thématique des déchets. J'ai défini différentes thématiques à traiter. Et si après, il y a aussi les contributeurs en cagnotte participative qui peuvent permettre de financer le projet. Et moi, j'ai prévu des contreparties, des photos, des albums, etc., différents trucs.
D'accord. Et qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pendant ce tour d'Europe?
Eh bien, pédaler, déjà. Mais non, en fait, l'idée, c'est d'aller rencontrer, comme je disais, 15 acteurs de la transition écologique sur 15 thématiques différentes. L'éducation, les déchets, le sport, pour essayer de montrer les différents leviers d'action. Et aussi aller rencontrer des étudiants qui sont engagés et essayer de raconter leur parcours, comment ils sont arrivés à agir, quelle a été leur motivation, etc. Pour essayer de comprendre aussi, d'un point de vue peut-être plus comportemental et psychologique, comment ça fonctionne et comment on peut donner envie d'agir, quoi.
Et est-ce que vous auriez quelques exemples à nous donner de personnes que vous allez rencontrer?
Ouais, pour l'instant, j'ai notamment sur le début du parcours, ça sera Fabien Fabre qui a réalisé un documentaire qui est passé au What a Trip Festival à Montpellier l'été dernier. C'est pas le dernier. Et qui a fait tout un travail sur les déchets plastiques. Donc l'idée, ce sera d'aller le rencontrer, parler des déchets plastiques, les enjeux, ce qu'il a compris. Et puis aussi parler de sa vision du voyage en vélo. Donc ça sera intéressant. Et puis aussi Heidelberg, la ville jumelée avec Montpellier, qui va m'accueillir. Et là, j'aurai l'occasion de parler avec des associations qui développent le vélo en Allemagne, notamment. Donc voilà, un peu avoir une idée des rencontres.
Ok, eh bien, merci beaucoup, Tristan. Est-ce que vous avez un mot à rajouter?
N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux.
J'allais vous demander comment on fait pour vous suivre cet été.
Ouais, du coup, ça s'appelle Vélo Optimiste, le projet, et c'est possible de le suivre sur Instagram, sur LinkedIn, avec ce même nom. Et puis il y a aussi la cagnotte participative qui est encore active, donc n'hésitez pas, si le projet vous intéresse et est porteur de sens pour vous, n'hésitez pas à partager, et moi j'essaierai d'être le plus généreux possible pendant ce voyage pour faire vibrer tout le monde, voilà.
Merci beaucoup à tous les deux. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Naomi Charmetan pour la réalisation de cette émission. Vous l'avez compris, on ne se retrouve pas la semaine prochaine, mais à la rentrée de septembre. Alors passez un très bel été et surtout, pensez à débrancher.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.